Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Nous inaugurons ce lundi notre série sur les clichés eurosceptiques, une série à retrouver en images et en dessin sur le site de RFI sous la forme d'un web documentaire interactif à l'adresse europeetmoi2toutattaché.rfi.fr. Et ce premier épisode nous amène en Grèce. Alors que l'Union européenne s'inquiète des premières décisions du gouvernement populiste italien, nous vous proposons le portrait d'une chef d'entreprise grecque. Elie Nikolaou est à la tête d'une petite entreprise de produits cuisinés. Et si elle reste profondément européenne, elle juge sévèrement la cure d'austérité imposée à la Grèce durant le plan de sauvetage. Reportage dans son entreprise dans la banlieue d'Athènes, Frédéric Lebel.
Dans le hangar de son entreprise, les employés mettent la main aux derniers cartons qui seront envoyés dans toute l'Europe. Des bocaux de sauce, des petits plats cuisinés avec le label Simply Greek, une marque née en 2012, en pleine tourmente financière et européenne, et dont Elie Nikolaou n'est pas peu fière.
It's a Greek brand.
C'est une marque grecque qui est née sur les cendres de la crise financière grecque. À l'époque, tout le monde attaquait la Grèce. Et nous, les Grecs, nous étions considérés comme des fainéants, comme l'allié de l'Union européenne. Ce que nous ne sommes pas. Bien sûr, la Grèce a fait des erreurs. Mais de nombreux Grecs sont prêts à travailler dur et apportent des idées novatrices. On veut prouver qu'on a de grandes choses à offrir et qu'on veut aller de l'avant.
La cuisine, c'est une passion familiale. Elle lui vient de sa mère. Elle la partage avec son mari. Après avoir importé des chutneys et des épices de Grande-Bretagne, c'est tout simplement les spécialités de son pays qu'elle a voulu mettre en avant.
Je suis très fière d'être grecque. Le premier livre de cuisine date de l'Antiquité grecque. Avec l'agriculture, ici, vous avez tellement de bons produits. Ce que nous avons est béni par le soleil et ça se sent. Les tomates grecques n'ont pas le même goût qu'ailleurs. Et c'est vrai pour tous les produits. À travers eux, on goûte le soleil et la culture.
Un PIB qui a chuté de 25% entre 2008 et 2016, une hausse de la TVA à 24% pour les produits alimentaires, quand elle est au minimum dans les pays voisins. Elie n'a pas de mots assez durs pour critiquer l'austérité imposée à son pays. Le contrôle des capitaux imposé par l'Union européenne a bien failli avoir raison de son entreprise.
Le contrôle des capitaux, ça veut dire la destruction du business. Vous ne pouvez pas retirer votre argent de la banque et vous ne pouvez pas effectuer de paiement. C'est comme si les banques avaient fait faillite. Vous ne pouvez pas faire de prêt. Le contrôle des capitaux est toujours en place. Je me souviens, en 2015, nous avions une facture à payer au Royaume-Uni. Il a fallu que je me rende à la banque munie d'une lettre du service de comptabilité britannique pour que la banque accepte de sortir cet argent et effectue le paiement. C'est vraiment humiliant. C'est mon argent. Pourquoi je devrais demander une quelconque autorisation.
Grâce à ces bons résultats, l'entreprise Simply Greek a pu embaucher 3 jeunes employés. Héraclis est manutentionnaire, il est payé au salaire minimum et vit dans la maison d'à côté.
Je gagne 600 euros par mois et avec ce salaire, je ne peux pas vivre seul, louer une maison, être autonome. C'est pour ça que je vis avec mes parents et ma grand-mère. Mes frères sont déjà partis, ils ont fondé leur famille, pas moi. Si nos parents n'assuraient pas nos arrières, on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait rien faire. Nous sommes dépendants et même à l'âge de 25 ans.
Avec un taux de chômage de 40,8% pour les jeunes, la Grèce détient un record. Mais les moins de 25 ans ne sont pas les seuls à avoir fait les frais de la crise et du plan d'austérité. 3 millions de Grecs vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Melina Tapransi a créé l'organisation à but non lucratif Wise Greece. Elle récolte de l'argent en s'occupant du marketing de plusieurs petites entrepreneurs de l'agroalimentaire. Argent qu'elle utilise ensuite pour venir en aide aux sans-domicile fixe. Ce jour-là, Elie et Melina ont préparé des barquettes de repas qu'elles distribuent gratuitement aux plus pauvres dans les rues d'Athènes.
Aujourd'hui, on voit que les Grecs ont changé de mentalité. Ils ont une autre façon de penser, de travailler, peut-être même de voter. Ils ont compris qu'ils ne pourraient plus se contenter de travailler dans une entreprise et d'attendre leur salaire à la fin du mois, mais qu'il leur fallait faire autre chose, aider les autres. Ils ont été confrontés au chômage et ils voient les chômeurs d'un autre œil. Ils s'engagent davantage dans des organisations à but non lucratif. Petit à petit, ils sont en train de changer.
L'économie aussi est sur la voie de la reprise. La croissance devra être de 2,4% cette année et les exportations sont en hausse. Un regain timide, mais selon les économistes, il faudra attendre au moins 7 ans avant que les Grecs commencent à sentir les effets de cette embellie.
Ils sont des milliers tous les jours à passer la frontière hispano-marocaine, direction Melilla. Dans l'enclave espagnole, certains Marocains font des achats, d'autres travaillent. Et parmi eux, des centaines de femmes qui viennent de jour comme de nuit se prostituer. Concentrées dans le quartier Barrio Real, elles sont soutenues par l'association Melilla Acoré, mais rejetées par les riverains. Et c'est le reportage de Théa Olivier.
Derrière une porte, au fond du local de l'association, Jamila et Chous ne partagent pas l'excitation de l'équipe qui prépare la fête de quartier. Elles travaillent isolées avec les prostituées marocaines.
Oh là là, il y en a tellement, tellement avec qui nous avons pleuré. Jamila et moi avons été très touchées.
Nous sommes dans le Barrio Real, quartier résidentiel le plus proche de la frontière. La prostitution y est mieux payée. Derrière son petit bureau, cet Espagnol, d'une cinquantaine d'années aux cheveux blonds et les yeux fatigués, se souvient.
Nous avons eu le cas de plusieurs femmes violées collectivement. Un client les a appelées pour un service, puis emmenées dans une maison. Ils étaient trois amis et ils les ont gardées tout un week-end enfermées et séquestrées. Les filles sont venues le lundi pour nous raconter ce qui s'était passé. Mon Dieu, on ne peut même pas imaginer ce que c'était.
Au coin des rues calmes et ombragées de ce quartier familial, des femmes marocaines en djellaba ou en jean t-shirt attendent leurs clients. Depuis 2002, bon an mal an, malgré la baisse des subventions accordées par la ville, l'association leur distribue des préservatifs gratuits. Suivant les périodes, elles sont entre 300 et 1 millier à passer.
Au début, c'était compliqué car elles ne voulaient pas nous parler. Mais petit à petit, on a gagné leur confiance car on allait à leur rencontre dans la rue. Et elles sont venues au centre pour solliciter notre aide, parler avec nous, récupérer des préservatifs ou faire des analyses.
Cette confiance a été longue à établir avec celles qu'elles considèrent maintenant comme leurs amies. Dans la rue, assises sur des marches ou sur des bancs, trois femmes discutent entre elles mais refusent de parler au micro. Elles ont peur que leurs proches reconnaissent leur voix, peur des représailles de la police. C'est le cas de Khadija, qui acceptait de nous parler en off. Les yeux soulignés de colle, du rouge sur les lèvres, la jeune femme de 25 ans remet délicatement son voile noir à fleurs avant de prendre la parole. Originaire de Nador, elle est mère célibataire, abandonnée par sa famille. Elle dit passer seule la frontière quand elle a besoin d'argent, grâce à son passeport de Nador. Les premiers mois, elle avait peur de tout. De la police, des clients espagnols ou marocains qui demandaient des choses étranges. Mais elle avoue ne pas avoir d'autres alternatives pour s'occuper de sa fille de 4 ans. Un parcours habituel selon Chous.
Je peux vous dire que 90% des femmes se prostituent par nécessité. La différence, c'est que les femmes qui viennent le matin ont une famille, des enfants, sont célibataires, veuves ou séparées, et elles ont besoin de gagner de l'argent tous les jours pour subvenir aux besoins de la famille. Les femmes de la nuit sont plus compliquées, souvent alcooliques, droguées et qui fument beaucoup de hashish.
Mohamed, la vingtaine, tient un petit kiosque au milieu de l'avenue principale du Barrio Real. Il connaît bien ses filles qui viennent quotidiennement dans son commerce.
Toutes les 5 minutes, l'une d'entre elles vient m'acheter un préservatif, une boisson power, des Kleenex ou du tabac. C'est un va-et-vient constant.
Le jeune Marocain a grandi à Melilla et travaille ici depuis 7 ans. Avec le temps, il est devenu ami avec les prostituées du coin, qu'il salue toujours d'une blague ou d'un grand sourire. Et les femmes lui confient leurs problèmes, leurs disputes aussi.
Elles me disent qu'une fille ne les laisse pas travailler dans la rue alors que c'est leur coin. Elles se battent entre elles. Les voisins se plaignent d'ailleurs quand c'est l'heure de la sieste.
Car travailler dans la rue, cela veut dire travailler à la vue de tous. et les riverains sont excédés, comme José, père de deux jeunes filles.
Pas loin, il y a un parc pour enfants. Et juste au coin, eh bien, il y a des filles qui exercent leur métier. Le contraste est saisissant entre les enfants qui jouent et les prostituées qui font leur commerce. Elles n'ont aucune pudeur et ne respectent pas les voisins qui leur demandent de travailler autre part. Elles se disputent avec eux. Regardez, elle se réfugie juste ici, à l'ombre, parce qu'il fait chaud.
Avec l'association des voisins créée en 2015, José lutte contre la présence des prostituées dans le quartier. Jesús, vice-président et père de deux enfants, a interpellé toutes les autorités de Melilla pour trouver une solution.
Nous avons toujours milité pour un transfert de cette activité, car bien évidemment, on ne peut pas éliminer le problème. Ce qu'il faudrait, c'est une action sociale pour venir en aide à ces femmes, pour qu'elles travaillent plus en sécurité, avec plus d'hygiène, mais surtout dans un autre endroit.
Chus, de l'association Melilla à Corée, est beaucoup plus radical.
J'ai toujours dit que la solution pour en finir avec les problèmes que vivent ces femmes, c'est de légaliser la prostitution.
Au Maroc, la prostitution est interdite. De l'autre côté de la frontière, elle est légale dans les maisons closes, mais interdite dans la rue. Les prostituées risquent des contraventions allant de 300 à 30 000 euros. Mais le plus gros danger pour ces femmes est encore de tomber dans un réseau qui les réduit en quasi-esclavage. Un tel réseau a d'ailleurs été démantelé par la police il y a 3 mois.
À travers un carnet de bord, nous revenons sur un conflit vieux de plus de 20 ans dans l'ex-Yougoslavie. Vent glacial sur Sarajevo raconte une partie du long siège de la capitale bosniaque. En 1995, alors que la ville est assiégée par les forces serbes, le militaire français Guillaume Ancel rejoint Sarajevo avec un bataillon de la Légion étrangère. Il raconte à Anastasia Becchio l'ambiguïté de la position française dans ce conflit et d'abord sa mission dans le cadre de la FORPRONU, la force de protection de l'ONU.
Sarajevo est une capitale assiégée depuis 3 ans quand nous arrivons au début 1995. Avec ce bataillon de la Légion étrangère dans laquelle je suis détaché avec mon équipe spéciale. Le plus long siège de l'histoire contemporaine. Le siège va durer d'ailleurs encore pratiquement une année. Et en fait, j'arrive pour une mission finalement relativement simple. C'est que l'ONU a enfin trouvé un accord avec les belligérants. Toutes les armes lourdes sont interdites autour de Sarajevo. Donc il y a une zone d'exclusion des armes lourdes. Et donc mon équipe est missionnée pour repérer toute arme lourde qui échapperait à ce contrôle et la détruire avec des frappes aériennes.
On comprend assez rapidement à la lecture de votre récit que vous allez être quasiment impuissant finalement face à ces combats. À chaque fois que des frappes aériennes sont en préparation, elles sont annulées par le commandement de la FORPRONU. Vous racontez par exemple au début de votre livre cet épisode de l'immeuble de la glacière.
Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé le livre « Vent glacial » parce que c'est ce que nous avons ressenti quand nous avons compris progressivement qu'en fait, la mission à laquelle nous étions préparés n'était pas celle que nous devions conduire. Donc typiquement avec l'immeuble de la glacière, des avions sont mitraillés par des Serbes à partir de cet immeuble-là. Et en réalité, chaque fois qu'on va préparer une riposte ou une destruction des armes lourdes, dont je le rappelle, il y a eu un accord sous l'égide de l'ONU pour les empêcher de tirer sur la ville, en fait, chaque fois, au dernier moment, la frappe est annulée. Mais pas une fois, pas 10 fois. Ce sera plus de 100 fois pendant ce mandat qui va durer 6 mois. Ce qui veut dire que on est venu pour une mission et on va comprendre qu'on est pris au piège d'une politique française qui ne sera jamais affichée, mais toujours appliquée, qui consiste à protéger les agresseurs serbes. Et je pense que cette mission était tellement tordue qu'elle a sans doute prolongé la souffrance des Sarajeviens. Alors que nous étions venus pour alléger le siège, en réalité, nous l'avons prolongé.
Donc, d'après vous, à quoi a servi finalement cette mission d'interposition ?
C'est terrible. Si la France ne souhaitait pas intervenir contre les Serbes, il fallait pas venir à Sarajevo, il fallait pas le camoufler sous une opération humanitaire. D'autant que je revenais d'une autre mission, à ce moment-là, qui était le Rwanda, et où j'ai eu exactement le même sentiment, c'est-à-dire d'intervenir sous une intention humanitaire, alors qu'en réalité, encore une fois au Rwanda, nous avons réussi à protéger les agresseurs qui étaient juste des génocidaires. Donc là, on se retrouve à Sarajevo, on protège de fait les agresseurs qui sont serbes, et ma mission se termine par un événement dramatique qui sont les massacres de Srebrenica.
Justement, vous écrivez à propos de ces massacres de Srebrenica, les Serbes agissent en pleine lumière comme s'ils n'avaient rien à craindre. En fait, vous avez eu connaissance de photos prises par des avions de reconnaissance.
Oui, c'est-à-dire que les massacres de Srebrenica, nous les avons suivis avec un décalage de 2 heures. C'est-à-dire toutes les 2 heures, il y avait un avion de reconnaissance de l'OTAN qui passait, qui prenait des photos. Et donc 2 heures après, on avait les photos sur des écrans informatiques. À l'époque, les transmissions de données sont un peu plus lentes que maintenant. Mais ça veut dire qu'on suivait les massacres de Srebrenica en juillet. Et on entendait en parallèle nos dirigeants politiques qui annonçaient sur toutes les chaînes qu'ils n'étaient pas au courant et que c'est pour ça qu'ils n'avaient pas pu intervenir. La réalité, c'est que bien évidemment, on a suivi les massacres. Et ce qui m'a beaucoup troublé, c'est que sur ces photos, les Serbes s'exposaient en train de massacrer la population, comme s'ils avaient eu un espèce de blanc-seing de pouvoir conduire cette mission atroce. Regardez, regardez ce qu'on est en train de faire. On le fait parce que on a l'autorisation de le faire. On sait que vous ne frapperez jamais.
Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand on est sur le terrain? Est-ce qu'il y a une certaine forme d'impuissance?
C'est une impuissance totale. Je crois qu'il n'y a rien de plus frustrant et dévastateur d'être avec les meilleures unités de l'armée française à qui on demande, sans jamais oser le dire aux Français, parce qu'on n'a jamais osé reconnaître cette politique en France, qu'en réalité on prend parti pour l'agresseur. Ça nous met dans une situation inacceptable. Et je dirais indécente.
Pourquoi avoir décidé d'écrire plus de 20 ans finalement après les faits?
Si vous voulez, d'abord, il y a le temps de la confidentialité opérationnelle, une obligation de réserve, ce qui est normal quand on est en opération. Et puis après, vous espérez bien sûr que les hommes politiques vont s'emparer du sujet pour dire « enfin, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, rien ne s'est passé. Ensuite, vous attendez le temps des historiens pour dire « mais quand même, on a suffisamment de documentation pour argumenter sur le fait qu'il y avait un problème à Sarajevo. » Il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que la communication officielle du gouvernement français était tellement bien faite que les gens finissent par croire que cette fable qu'on a racontée autour de Sarajevo, une intervention humanitaire, était devenue une réalité. Et donc moi, je veux parler pour que le silence de mes compagnons d'armes ne se transforme pas en amnésie.
Guillaume Ancel, son livre « Vent glacial sur Sarajevo » est publié aux éditions Les Belles Lettres.
If you do not understand or speak English very well, you may bring an interpreter with you.
Nous vous en parlions il y a déjà quelques mois. Aux Pays-Bas, certains se rebellent contre le monopole de l'anglais, une langue de plus en plus utilisée dans l'enseignement supérieur. Plus de 60% des cursus universitaires sont exclusivement dispensés en anglais, au détriment du néerlandais. Une organisation de défense du néerlandais a donc décidé de porter plainte contre 2 universités. Antoine Moutot.
Prendre soin de la langue et de la culture néerlandaise est l'un des principaux devoirs de l'enseignement supérieur. Ces mots, ce sont ceux d'Adverbrugge, le président de Beter Onderwijs Nederland, en français « Meilleur enseignement Pays-Bas ». Cette organisation a récemment déposé une plainte contre 2 universités du pays, celle de Maastricht et d'Enschede, mais aussi contre l'inspection académique. Pour les défenseurs du néerlandais, le passage massif à l'anglais de très nombreux établissements de l'enseignement supérieur serait en contradiction avec la législation néerlandaise. Il se base sur un texte de loi datant de 1992 et qui prévoit que, sauf exception, le néerlandais est la langue d'enseignement des universités. Beter Onderwijs espère ainsi que la justice tranchera en sa faveur et contraindra les universités en question à opter de nouveau pour des cursus en néerlandais. Il y a quelques semaines, l'organisation a lancé une pétition dans ce sens, déjà signée par plus de 6000 personnes. Puis elle a appelé ses membres sympathisants et tous ceux acquis à sa cause à participer au financement du procès. Pour l'instant, plus de 8000 euros de dons de particuliers ont été récoltés. Selon Beter Onderwijs Nederland, il y a urgence. Aux Pays-Bas, plus de 70% des masters et 20% des licences sont dispensés en anglais. Il y a 2 ans déjà, un groupe d'universitaires et d'intellectuels néerlandais avait publié un manifeste contre l'anglicisation de l'université. Ils craignent entre autres un enseignement de moins bonne qualité, l'anglais n'étant pas la langue maternelle de la plupart des étudiants et des professeurs.
À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. N'oubliez pas bien sûr le webdoc et sa version radio toute cette semaine sur Accent. Demain, le portrait d'un jeune Hongrois très engagé.